Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez, vous pouvez nous écouter à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre Santé, un trésor. Je rejoins aujourd'hui avec beaucoup d'émotion Montpelliérain, comme quoi notre radio va au-delà des limites de notre département et remplit notre belle région. Notre invité est très connu dans la capitale de l'Hérault. Il s'agit de Florian Mancione, créateur de Florian Mancione Institut en 1976. Bonjour à vous, bonjour à toi, puisqu'on se tutoie maintenant, monsieur Mancione, et merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Jacques.
J'aimerais que tu te présentes plus longuement, vu ta multiples activités, mieux te définir, non comme retraité, mais comme un pensionné. Et il m'a dit, je ne suis pas retraité, je suis pensionné, en regard des activités que tu as, notamment l'écriture.
Alors, je peux vous présenter de deux manières, soit sous l'angle professionnel, qui est classique en fait.
Et hein. On va prendre les deux manières, pour le même
Allez.
Prix, on va
Chiche.
Prendre les deux manières.
On va commencer par le professionnel en fait, hein, puisque
oui.
Moi, après avoir fait Sciences Po...
C'est intéressant le professionnel,
voilà.
Parce que...
Après avoir fait Sciences Po Toulouse, Sciences Po Toulouse et Sciences Éco à Paris 1, j'ai créé, et après avoir travaillé deux ans chez Burux, à l'époque où Unisys s'appelait Burux, comme ingénieur commercial, j'ai créé en 76 mon cabinet, qui s'appelle le Florian Mancione Institut. En
oui.
Abrégé, c'est FMI.
Voilà, mais c'est bien.
Donc, à 27 ans, je suis dit Florian Mancione, directeur du FMI.
Oui, voilà.
Voilà. Et donc, pendant 50 ans, j'ai travaillé dans le domaine des ressources
On
humaines.
On ne le dirait pas, 50 ans.
Je suis très jeune, je sais. Et donc, pendant 50 ans, j'ai travaillé dans le domaine des ressources humaines en apportant la palette complète de services à mes clients, c'est-à-dire du conseil en recrutement, de la formation, de l'outplacement, des bilans de compétences, des audits humains et organisationnels.
Alors ça c'est très intéressant parce que
voilà.
Tout ce qui est management, coaching, relations humaines, comment c'est important en santé, parce qu'en fait, la santé, eh bien, c'est du management, hein, le management de santé. Alors, avant l'émission, on avait un échange. Tu fais partie aussi d'un centre, d'un regroupement qui parle de l'optimisme.
Je suis le délégué départemental de la Ligue des optimistes de France.
Voilà, alors je
dans le but de promouvoir l'optimisme en France.
Voilà, alors je prends officiellement rendez-vous pour une émission sur l'optimisme, parce que ça fait partie entièrement de la santé. Parce que
je te sens très optimiste, mon cher Jacques.
Mais je suis optimiste, sinon j'aurais pas fait médecine si j'étais pas optimiste, parce que... Vu ce qu'on voit et qu'on pense pouvoir soigner. Alors, nous avons eu l'occasion de nous rencontrer, mais avant cette rencontre, tu m'avais adressé un manuscrit pour une future publication, j'espère que ça verra le jour, et qui s'est intitulé « Il y a une vie avant la mort ?»
Y a-t-il une vie avant la mort ?»
Point d'interrogation.
Bien sûr.
Réflexion sur la mort d'un être cher. Ce manuscrit non publié, et je profite ici pour te remercier de ta confiance, hein, de me l'avoir confié, puisqu'il n'est pas publié, a été réalisé après un deuil.
Oui.
Qui t'a bouleversé. Comme
non, pas
les...
après un deuil, pendant le deuil, justement.
Pendant le deuil.
Et
oui,
c'est
oui,
ça.
Enfin,
et qui participe à réaliser mon deuil.
Voilà, un deuil, ça commence et puis on ne sait pas quand ça finit.
Voilà.
Parce que des fois, il y a des rebonds, hein,
voilà.
Plusieurs
voilà.
années. Et donc, cette écriture. Alors, j'ai eu l'occasion d'inviter de travailler sur des témoignages de deuil, hein, mais c'était surtout des dames. Certes, j'ai été invité hein, à des auteurs qui ont écrit sur le deuil et évoqué des ouvrages sur ce drame. Mais c'est la première fois, en fait, que la particularité, c'est un veuf, c'est un homme qui parle de son deuil. Les hommes, en fait, en parlent moins facilement que les dames. Un homme en deuil et que les veufs, eh ben, s'expriment rarement. Il m'a semblé intéressant, si vous me permettez, dans l'emploi de ce terme, évidemment, d'écouter ton témoignage et le pourquoi d'un tel projet d'écriture. Tout d'abord, peux-tu nous évoquer ton histoire et la souffrance qui en résulte ?
51 ans de mariage, 51 ans de bonheur et un tsunami qui arrive après un cancer qui a duré 2 ans pour Christine. Voilà. Donc j'ai été dévasté et ma manière de me reconstruire a été multiple en fait. Hein. Il n'y a pas une seule manière hein, pour affronter cette épreuve. Un, il faut être bien entouré, bon, ce qui était le cas, et c'est le cas, par mes deux filles, mes deux gens, mes 4 petits-enfants, donc ça
oui.
C'est hyper important d'être
une
bien
famille,
entouré.
Une structure.
Et puis ma manière... Deuxièmement, ce que j'ai fait, c'est que j'étais débordant d'activité avant le 1er septembre, et après le 1er septembre, après le décès de Christine, j'étais encore plus en activité. Mmh. Ben là, j'étais débordant d'activité, pour ne pas penser.
Oui.
Et pour moi, l'activité, ça m'a, entre guillemets, sauvé, en fait. Hein,
dans... Oui, alors on trouve ça, l'hyperactivité, les hyperactifs,
voilà.
C'est un moyen de défense, l'hyperactivité.
Et exactement, j'assume,
mais,
en fait.
Voilà, hein. Pour le médecin, c'est un bon moyen de défense, mais il faut quand même le réguler, parce que c'est aussi, ça épuise, et avec le deuil, de phénomènes qui épuisent, on risque de faire ce qu'on appelle actuellement burn-out, et les burn-out, c'est les états dépressifs.
Alors, troisième technique, ce que j'ai fait... C'est que j'ai créé un groupe de réflexion et d'échange avec des veufs et des veuves.
Voilà, alors ça sera le thème de notre émission.
Voilà. Alors, quatrièmement, ce que j'ai fait, j'ai écrit un livre. Voilà. Et je me suis dit qu'en écrivant ce livre, j'allais exprimer tout ce que je ressentais. J'allais chercher des informations complémentaires pour bien me reconstruire. Et ça a été une belle expérience, écrire quelque chose. J'ai plus de plaisir à l'écrire, avec le recul, que de vouloir le publier, en fait. Le plus important, c'est qu'il fallait que je l'écrive. Pour moi.
Alors, deux choses. D'abord, deux questions qui n'étaient pas prévues, mais j'aime bien les questions qui ne sont pas prévues quand même, mais qui ne sont pas méchantes. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a suivi,
enfin, je veux dire, Pas du tout.
Pas du tout. Hein. Donc,
pas
ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est une souffrance, tout ça, mais tu n'as pas été suivi. Hein. C'est comme le groupe de parole dont on parlera dans une autre émission.
Tout à fait.
J'ai dit non médical. Un groupe de parole non
tout
médical.
Tout à fait.
Et puis l'écriture, alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque je l'ai pratiqué moi, hein, en tant que praticienne du deuil, puis dans son palliatif, ça ne s'arrête pas avec le décès du patient, on s'occupe des deuils, hein, des, si vous me permettez l'expression, des restants, parce que des endeuillés, et l'écriture est un très bon moyen thérapeutique. J'avais le projet, mais c'est difficile de le réaliser pour des problèmes de publication, parce que quand les gens écrivent, ils aiment bien quand même être lus, hein, quand on écrit, hein, être lus. C'est de faire en fait un club ou une structure de thérapie par l'écriture, hein, et de pouvoir le faire. Mais en fait, ça pose des problèmes. Alors, tu as déjà écrit des livres, notamment sur le management.
J'en ai écrit 37 de livres.
C'est pas rien quand même. Hein.
Exact.
Alors, mais pourquoi un projet d'écriture pour métaboliser le deuil? 37 livres, mais ce sont des livres de professionnels sur le management.
Des essais, ce sont des essais.
Voilà, des essais, hein, des réflexions. Puis c'est un moyen de détendre, de communiquer, hein, d'écrire.
Mais écrire, ça permet de synthétiser sa pensée, ça permet de choisir les mots justes, et de réfléchir à chaque mot juste que l'on va utiliser. C'est une prise de recul sur les événements, sur la situation. Et j'avais besoin de ça. Pas trop dans l'émotion, pas trop dans l'activité. Enfin, j'ai les deux. J'ai l'activité d'une part, associative, et puis donc, c'est un moment de pause, de réflexion. C'est hyper important, la réflexion.
Alors, l'écriture, en fait, chez le souffrant, quel qu'il soit. Parce que moi, j'ai fait écrire des gens pour des douleurs, j'ai fait écrire des gens pour des pathologies chroniques. Ce qui est très important en thérapeutique, c'est la structuration et la sculpturation. C'est-à-dire que les gens se structurent et structurent leur moyen de défense en écrivant et se sculptent, en fait. Hein. Et j'aime bien dire que dans ma pratique, j'étais un sculpteur de vie. Quoi, hein. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, on encourage, je pense que tu es d'accord avec moi, les gens qui sont en souffrance d'écrire, même si on ne publie pas. Donc, après la publication, c'est un autre domaine. Mais beaucoup de gens le font. Alors, nous avons eu des auteurs, j'ai fait même des auteurs étrangers, mais c'était surtout des dames. Donc, c'est intéressant avec ta présence. Que ça soit un homme très actif, hein, très, en plus dans le relationnel, hein, je veux dire, qui est énormément au niveau du travail, c'est du relationnel. Et puis, tu as une floraison d'associations, d'activités, etc. Mais malgré ce, et une famille, hein, qui est aussi structurante et sculpturante, mais c'est ce besoin d'écrire, c'est-à-dire se retrouver avec soi-même en face d'une feuille d'un ordinateur. Alors, comment tu écris? Par l'ordinateur ou par
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Toujours par l'ordinateur.
C'est important. Et moi, ce que j'aime bien, c'est pas uniquement un simple témoignage, en fait. Hein, raconter ma vie, mon histoire, c'était pas le plus intéressant. Moi, j'ai voulu réfléchir, voilà. Et le point de départ, c'est la vie est-elle absurde? La mort est-elle absurde? Et j'ai convoqué les philosophes, les écrivains, les religions, pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et moi, ma position à moi, c'est que la vie est absurde, et comme elle est absurde, comme elle n'a pas de sens, il faut que chacun lui donne un sens.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est important. On va lui donner un sens à sa vie avec des valeurs et avec un projet de vie. Et je crois qu'on est équilibré et on vit sa vie de manière équilibrée si on essaye de réaliser son projet de vie et si on est en harmonie, si on est congruent avec ses propres valeurs. Encore faut-il les définir, ses propres valeurs, et les mettre en application. C'est ça la congruence, en fait. Hein.
Donc, mais avant cette écriture, avant ton management, tu avais fait déjà, on ne va pas s'étendre là-dessus, bien évidemment, mais tu as fait déjà un travail sur toi, sur une philosophie, un travail sur toi-même, avant ce...
J'appellerais pas ça un travail, en fait. Hein. J'aime bien lire, j'aime bien réfléchir, j'aime bien échanger.
Voilà.
J'aime bien faire partie d'une association spirituelle qui permet de prendre du recul sur la vie et d'envisager la spiritualité. Hein, comme un élément important de la vie, en fait. Hein. Il
n'y
a pas que la vie terrestre, il n'y a pas le côté matériel, il y a le côté spirituel. Et je crois que... Mais chacun a sa position.
Il faut
équilibrer. Et le côté matériel est important, mais le côté spirituel est aussi important.
Oui, non, mais là, tu es pas nous inviter dans un sens de nous convaincre. C'est simplement, tu nous donnes ton expérience,
voilà.
Ton expérience d'écriture, qui peut enrichir nos auditeurs qui traversent une telle période. Hein. La première partie du manuscrit intitule « La mort, cette injustice irréversible ». Peux-tu nous en dire plus ?
C'est totalement injuste, la mort, en fait, hein, d'un être cher, en fait, hein, sa propre mort. Bon, c'est c'est normal, en fait. Hein, mourir soi-même, c'est normal. Mais que son être cher, mon épouse, après 51 ans de mariage, plus la période d'essai et plus le test, meurt, c'est injuste. Il n'y a pas de raison. Et ça, moi j'ai mis un sentiment de révolte, tu vois.
Ouais.
Et puis, c'est le côté irréversible qui est terrible, en fait. Hein.
Ouais. Ah oui, bon. La mort est irréversible.
Voilà.
Enfin, on le croit voilà. dans la vie de tous les jours.
En tout cas, dans la relation avec l'ancien. Bon, je me souviens, quelques jours après, quand j'ai annoncé à une personne que je connaissais bien que Christine était morte, sa réponse, son expression immédiate, c'était « Oh la pauvre
oui. !»
Et moi, je me suis dit,
oui.
C'est pas « Oh la pauvre !» Je lui ai pas dit, mais je le pensais. C'est pas « Oh la pauvre !» c'est « Oh le pauvre !»
oui.
C'est moi le pauvre, c'est pas elle. Ce n'est plus elle.
Oui.
Alors, c'est ce sentiment-là qui me... Voilà, bon, je suis passé par toutes les phases, en fait. Hein, le déni, la révolte, la résignation et l'acceptation. Voilà, maintenant, je suis dans la phase d'acceptation. Et quand tu acceptes, bah, t'es mieux, t'es plus serein, tu voilà.
Un peu plus soulagé, quoi.
Voilà, un petit soulagé, voilà.
Très bien, alors je vous propose une trêve musicale pour reprendre nos esprits avec Francis Lalanne. J'ai choisi cette chanson, on se reverra.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie. Près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras. Tu briseras la nature
Vous écoutez Votre Santé un Trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jomme sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Florian Mathion pour son manuscrit, hein, qui n'est pas encore édité, mais qui va l'être à mon avis. Y a-t-il une vie avant la mort ? Réflexion sur la mort d'un être cher. Alors, la deuxième partie de ton manuscrit s'intitule « L'absurdité de la vie quand la mort interroge le sens ». Qu'entends-tu par là ?
Un petit peu ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre ? À quoi ça sert ? Naître, vivre, subir des épreuves et mourir. Quel est l'intérêt de tout ça ? A priori, il n'y en a pas. C'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt que soi-même, on doit créer quelque chose. On doit avoir un projet.
Je te coupe pour t'embêter un peu.
Mais vas-y.
Quand même, pendant cette période de vie dont tu dis que tu n'as pas d'intérêt, etc., tu as aimé Christine.
Ah, bien sûr, la vie est fabuleuse. Non, mais c'est le déroulement, c'est le concept, c'est le scénario.
Oui, mais l'amour que tu as eu pour Christine, pour ton épouse, et puis la famille que vous avez...
Fabuleux, on était fusionnel.
Déjà, c'est quand même très important d'avoir vécu ça.
Bien sûr. Et
c'est éternel, ça.
Bien sûr, et je ne garde que des bons souvenirs de ma relation avec Christine.
Donc la vie n'est pas forcément négative, puisqu'il y a eu cette...
J'exagère volontairement, en fait. Hein, donc la vie est très belle, et c'est parce qu'elle est très belle qu'on voudrait qu'elle se continue. On ne veut pas qu'elle s'interrompe.
Dans ta réflexion, tu en as eu pendant très longtemps, qu'est-ce qui te dit qu'elle ne se continue pas?
Elle est près de moi aujourd'hui, elle est présente.
Ah, voilà. C'est important ça.
Elle est présente, c'est évident en fait. Hein. Et des fois, j'entends dire « calme-toi Florian ». Voilà. Ouais. Mais elle est présente, c'est évident en fait.
Hein. C'est une présence différente.
Voilà, et c'est une manière de vivre différemment. Mais j'aimais bien ma manière de vivre auparavant,
oui,
c'est ce côté-là qui m'exaspère en fait. Hein, j'étais très bien. Moi, je me voyais à 80 ans, la main dans la main avec Christine, traversant la place de la Comédie à Montpellier. Ça me semblait évident. À 90 ans aussi, ça me semblait évident. Et cette rupture du scénario, que j'ai rien demandé, j'ai rien demandé en fait. Hein. Voilà, ça c'est exaspérant quoi.
Oui, tout le monde ressent ta révolte, en fait.
Voilà, J'accepte, mais bon.
Oui, tu acceptes forcé, bien évidemment, tout le monde.
Exactement,
mais
forcé.
On sent quand même que tu es toujours révolté.
Bah oui, c'est pas normal.
Oui, mais il y a des endeuillés qui ne le sont plus révoltés, qui acceptent et qui ne sont plus révoltés.
Non, bien sûr, mais ça va... Il faudra sûrement que je rencontre quelqu'un qui m'apaise.
Voilà, si ça te dérange pas, le décès de ton épouse, c'est récent quand même.
1er septembre.
1er septembre 2025.
Cette année.
Hein, d'accord.
Ouais, 2025, oui. Ça fait 6 mois, quoi.
6 mois, oui. Donc si c'est quand même, si tu permets cette expression, c'est quand même frais.
C'est très frais, bien sûr.
Ouais. Donc déjà en parler, d'avoir écrit tout ça en 6 mois, c'est déjà beaucoup quand même.
Mais ça fait partie de ma manière de m'extérioriser. C'est très bien. Et je te remercie de m'inviter parce que ça me permet d'en parler, voilà, comme ça. Et de manière spontanée, je n'ai pas de notes,
mais mes émissions ne sont jamais anodines. On croit toujours que c'est anodin, mais c'est jamais anodin. Il y a toujours... Je reste toujours thérapeute. Même à la retraite et dans mes activités, je reste toujours... Alors, tu as entamé aussi une réflexion, donner du sens à l'absurde, vivre avant de mourir. Et alors ?
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui survivent plus qu'ils ne vivent.
Ça, c'est vrai.
Voilà. Et tant mieux s'ils sont heureux. Et ils peuvent être heureux comme ça, en fait. Hein. Je dis rien, en fait. Hein. Mais je trouve que...
Ce qu'on perçoit chez toi, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Il y a une constatation.
Bien sûr.
Il y a un jugement de toi-même, un auto-jugement, ça.
Voilà.
Tu en as le droit, quand même. Mais tu as des constatations, mais tu ne juges personne, ou tu blâmes personne, ou tu es extrêmement neutre. D'ailleurs, c'est ta philosophie de vie, d'après ce que je connais un petit peu. Hein. C'est tu es intéressé par l'autre, tu donnes beaucoup, mais le jugement n'existe pas chez toi.
Non, chacun vit comme il l'entend, en fait. Ouais. Hein, j'ai pas de jugement pour ça. Moi, je peux leur dire, moi, je préfère vivre intensément.
Oui, non, mais après, voilà. C'est ton avis.
Et c'est là, le vivre de manière intense, c'est différent de survivre. C'est vrai qu'il y a malheureusement des gens qui, d'un point de vue professionnel, galèrent, d'un point de vue financier, galèrent, ont du mal à terminer la fin de mois. Ils survivent, en fait. Hein. Mais encore une fois, on peut être heureux, hein, même dans la souffrance, même dans la survie, même dans la gestion du quotidien, qui n'est pas forcément, vu de l'extérieur, rigolo, en fait. Hein.
Ouais.
Mais pour moi, il faut vivre intensément. Donc, il faut... Alors, chacun, à sa manière, vit intensément. Moi, c'est l'activité. Moi, moi, je suis boulimique.
Tout le monde l'a compris. Tout le monde l'a compris. Voilà. Mais tu es très, très actif.
Et je suis boulimique. Et c'est cette soif de vivre que j'exprime dans l'activité, dans la nourriture, dans les échanges. Les échanges, c'est fabuleux, en fait. Hein. Prenons un exemple très simple. Deux personnes échangent un produit. Chaque personne repart avec un produit. Deux personnes échangent une idée. Chaque personne repart avec deux idées.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça qui est beau dans la communication, c'est ça qui est beau dans l'entreprise. Voilà.
Ouais.
Voilà.
C'est ce que tu retrouves dans ton métier avec le management. C'est en fait,
exactement,
le management des autres enrichit quelque part ta vie.
Bien sûr. Bien sûr,
ça, c'est un peu ce que font les soignants. Qu'on le veuille ou pas, les gens me disaient souvent, bon, en soins palliatifs, et puis même quand on accompagne, pas qu'en soins palliatifs, quand on accompagne des pathologies chroniques, même chez des enfants ou autres, on me dit, ça doit être dur. Je dis non, parce qu'on essaie d'aider, donc c'est quand même relativement mou, si vous me permettez. Et puis les gens me disaient, mais il faut être résistant, il faut être dur. Je dis non, il faut être mou. Parce que si vous êtes dur, vous ne faites pas pénétrer, alors que si vous êtes mou, et donc ça, le soin enrichit le soignant. Alors, vous me comprenez bien, enrichit, pas d'une manière mercantile, mais d'une manière de... Et puis, ça enrichit l'expérience qui apporte aux autres. C'est-à-dire, c'est ce que normalement les soignants ont. C'est-à-dire, plus on vit... Avant, on allait plutôt consulter les vieux médecins, quand j'étais jeune, parce qu'ils avaient l'expérience. Comme le relationnel en médecine diminue, que la technologie prend le dessus, c'est vrai que les jeunes sont plus performants, mais le fait d'être mou et de se laisser pénétrer par la souffrance des autres, ben, enrichit sa vision de la souffrance. L'irrationnel et la mort, et une de tes dernières réflexions, et le sentiment de présence, on en a parlé un peu, la continuité de l'amour. C'est quoi la continuité de l'amour ?
De l'amour ?
Oui, de l'amour.
On le vit différemment, avec une présence différente, mais on peut écouter ou ne pas écouter. Et je crois que c'est plus lié à soi-même, à sa manière de vivre les choses, en fait. Hein. Le chemin est différent, forcément, en fait. Hein. On va l'emprunter. Moi, je sais que Christine est présente à mes côtés. Elle me souffle des choses. Si j'ai accepté d'être le délégué départemental de la Ligue des optimistes de France, elle m'a dit « Florian, vas-y, fonce, ça te convient très bien. »
Tu nous parles, tu me parles de cette relation avec ton épouse, alors j'aime bien un peu aller appuyer où ça fait mal. Et elle te parle comment? Évidemment, tu n'entends pas sa voix, tu ne la vois pas, etc. Ça
bien, 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 non, mais je l'imagine.
Bien, évidemment, voilà. On n'est pas dans ce contexte.
On est d'accord, en fait. Hein, j'ai pas d'hallucination, je la vois pas physiquement.
Oui, oui,
en
oui
fait,
non,
hein.
Mais ça, il faut éliminer tout ça pour que les gens...
Elle aimerait bien que je refasse ma vie. Elle aimerait bien que je rencontre quelqu'un. Elle aimerait bien que je sois enthousiaste dans beaucoup de choses. Voilà.
Tu le ressens au plus profond de toi. Ça.
Bien sûr, sachant que au tout début, hein, quand elle est morte, quand je plaisantais ou quand je riais, je culpabilisais en me disant mais t'as pas le droit de rire.
Oui, si, elle n'a pas le droit d'être vivant alors que l'autre est mort.
Voilà, et t'as pas le droit de plaisanter, pas d'astuce. Maintenant, ça y est, elle m'a dit non. Déconne pas, Florian, elle m'a dit. Ouais, oui. Vis ta vie, en fait. Voilà. Alors, je le déconne à ma manière. Alors, peut-être que ça m'arrange. Hein. Je dis pas le contraire.
Non, ça, je crois. Peut-être oui, que ça t'arrange parce que ça te permet de vivre. Donc, ça t'arrange.
Voilà. Alors. Donc, elle m'a dit, vas-y.
Les gens me disaient, on vit pour soi, quand même. On est tous. Bon, on s'occupe de soi-même, quoi. Hein. On est tous. Je n'arrive pas à trouver le mot. Tellement que ça t'aide. Mais on ne vit pas pour son voisin. Hein.
Voilà. Alors, moi, je sais que je vais rebondir. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment.
Non, mais je pense que tu as quand même un petit peu rebondi.
Oui, oui, oui. Mais alors, peut-être que rebondir, ça sera également trouver une femme avec qui je vais partager encore un bon bout de chemin ensemble.
Oui,
ça
oui,
aussi,
on
en fait.
Je le souhaite, si c'est un désir, si c'est un...
Voilà, je ne sais pas, comment, mais ça se fera. Et Christine me dit, me le souffle, vas-y.
Ouais. Donc c'est important qu'un homme comme toi, qui est un peu terre-à-terre quand même, hein, management, tout ça, ta carrière professionnelle, tes études, tes diplômes, montre que tu es quelqu'un de terre-à-terre, tu n'es pas...
Mais je suis aussi bien rationnel qu'intuitif, voilà.
Oui, mais je crois que tu as donné le terme, c'est intuitif. C'est-à-dire que malgré ça, tu parles de la présence et de la parole d'une défunte, alors, pour certaines personnes. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a bien éliminé le fait qu'elle ne t'apparaît pas comme un fantôme, etc. Ça, il faut vraiment le...
On est bien d'accord.
Et voilà. Mais cette intuition te fait sentir qu'il y a une communication, hein, et un présentiel.
Mais elle veut que mon bonheur, j'imagine qu'elle veut que mon bonheur, comme moi j'aurais souhaité son bonheur aussi.
Non, mais moi ce qui m'intéresse c'est de te le faire dire, non pas pour que ça soit une réalité, c'est pas une réalité, je veux dire, il n'y a pas de réalité, il y a des réalités, la réalité de chacun, mais c'est simplement pour que ton témoignage chez certains de nos auditeurs qui ressentent la même chose, montre qu'ils ne sont pas isolés, c'est ça un peu qui m'intéresse.
Tu as raison.
Dans l'émission, c'est ça, cette émission.
Mais là je porte témoignage, hein. Je ne dis pas voilà comment il faut faire.
Il y a des émissions sur Votre Santé un Trésor qui sont... médical pur ou histoire pure. J'aime bien l'histoire de la médecine. J'aime bien faire l'histoire de la médecine ou l'histoire d'une carrière de médecin, etc. Ça, c'est un autre domaine. Mais là, ce qui est intéressant dans ta présence et dans ton témoignage, c'est la façon dont tu parles. Donc, c'est pour que les auditeurs qui vivent comme toi, il y en a d'autres qui vont dire mais c'est n'importe quoi. Blablabla. Ils ont leur opinion. Et ceux qui le vivent et qui se sentent un peu seuls et qui n'osent pas l'admettre et le reconnaître, c'est important d'avoir un support, quoi. C'est-à-dire que voilà, je veux que des fois cette émission prenne un sens dans l'aide de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que cette émission aide l'autre.
La morale, c'est voilà ce que l'on peut faire et non pas voilà ce que l'on doit faire.
Voilà. Alors, tu as eu la gentillesse de me donner le droit de pouvoir lire une partie de ton manuscrit. Alors, tu vas le lire. Hein. Donc, j'ai choisi un passage qui me paraît important et on va t'écouter pour que tu nous le lises.
Donc ça a été écrit effectivement 2 mois après le décès de Christine.
Voilà,
en fait,
c'est, hein,
c'était tout frais en fait. Hein, donc j'avais, voilà ce que j'ai écrit. 2 mois déjà que Christine m'a quitté. 2 mois qu'elle nous a quittés. 2 mois qu'un tsunami a bouleversé ma vie, emportant avec lui mes repères, mes certitudes et une partie de moi-même. 2 mois que je tangue entre 2 phrases contradictoires. C'est la vie et c'est donc ça la mort. 2 mois que je m'enivre d'activités, que je me remplis de projets, comme si l'action pouvait endormir la douleur. Mon agenda est plein, mes journées débordent. Et pourtant, dans chaque minute, elle est là. 2 mois que je pense à Christine, 24 heures sur 24. 2 mois qu'elle m'accompagne autrement, qu'elle me glisse à sa manière des signes discrets, des clins d'œil de l'au-delà. Ou devrais-je dire, avec ce jeu de mots qu'elle aurait aimé, des clins d'œil, D-E-U-I-L-S, des clins d'œil. 2 mois que je culpabilise de rire, de plaisanter, de faire un trait d'esprit. Je me sens parfois indécent d'être encore vivant, alors qu'elle ne l'est plus. Et pourtant, je crois qu'elle me dirait « Continue, ris, aime, joue avec les mots. C'est ta façon d'être vivant, donc c'est ma façon de l'être aussi. » 2 mois que je ne sais plus quoi répondre quand on me demande « Comment vas-tu, Florian ?» Je pourrais dire « Ça va ?» pour rassurer, mais ça serait faux. Je pourrais dire « Mal », mais ce serait incomplet. Alors souvent je me tais parce que les mots sont impuissants à traduire l'absence. 2 mois que je me sens maladroit en tentant d'expliquer que 2 années de cancer ont suffi à briser 51 années de mariage et de bonheur.
Alors, vous comprenez tous pourquoi j'ai été intéressé par l'histoire de Florian. J'ai été touché par ses écrits et que j'ai voulu faire cette émission. Et je le remercie d'être présent et de se livrer comme il se livre. Et je souhaite vraiment que ce manuscrit soit publié pour que les lecteurs puissent bénéficier de ton optimisme. Eh bien, très cher Florian, un immense merci pour ta présence parmi nous, pour ton témoignage sur le drame mais que tu es en train de convertir en autre chose, ce drame que tu as vécu. Et merci à toi de donner la parole aux hommes, parce qu'ils souffrent aussi du deuil, mais ils ne le disent pas, il faut le reconnaître. Hein. Les hommes ne se plaignent pas trop, et donc il faut qu'ils osent. Merci infiniment à toi.
Merci Jacques, en tout cas, de m'avoir permis de m'exprimer. C'est très important, s'exprimer.
C'était un peu mon but, et puis que les autres t'écoutent et puissent s'auto-exprimer. Alors, j'ai l'habitude de finir cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. Alors, les livres que nous conseille Florian en mentionne, ce sont deux ouvrages, 2 derniers livres qui viennent juste de sortir et qui sont édités aux un éditeur nîmois, hein, à Audience Nationale, Christophe Laondès, hein,
voilà,
qui dirige les éditions
voilà,
Nombre 7.
Exact.
Alors c'est Le Management selon Jaurès et Le Management selon la technique théâtrale.
Le Management selon Jaurès, j'ai interviewé Jaurès le 31 juillet 1914, juste 2 heures avant son assassinat. Donc heureusement que je l'ai fait à ce moment-là.
Oui, là, on a un scoop. Là, hein.
Voilà.
Alors merci à toi. Alors je remercie Louis à la technique et Chanel au visuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus, à laquelle vous pouvez souscrire pour que votre radio, puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de Votre Santé un Trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.